Résonance du feu.
En 2022, durant un été brûlant, un feu d'origine accidentelle a consumé près de 1300 hectares de zones boisées sur la commune de Mostuéjoul, en Aveyron. 2 ans après, que reste-t-il comme trace et mémoire de cet incendie pour les habitants? Je m'appelle Elsa Souchet et vous écoutez une série documentaire produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste. Épisode 4, post-incendie. Septembre 2022, le feu d'Aveyron est éteint, enfin. Dans tous les lieux de décision, collectivités, institutions, on s'active car les urgences sont nombreuses. Sans avoir le temps eux-mêmes de décanter ce qu'il s'est passé, les élus de la commune sont pris dans une cascade de difficultés. Il faut rouvrir les routes, oui, mais pour ça, il faut d'abord couper les arbres brûlés sur les bords. Mais attention au risque de chute de pierre. Et quid de la prochaine saison touristique? Pour coordonner ces travaux fastidieux, les acteurs vont s'appuyer sur une structure avec qui tout le monde travaille déjà, le parc des Grands Causses.
Je m'appelle Jérôme Bussière, je suis chargé de mission biodiversité et forêt au parc naturel régional des Grands Causses. Le parc a assez vite mis en place un comité de suivi des travaux d'urgence post-incendie qui réunissait les gestionnaires, les collectivités, mais également des partenaires ou des institutions qui étaient impliquées de près ou de loin dans la gestion du site. Donc pour ça, on a missionné le bureau d'études de l'ONF qui est spécialisé en défense des forêts contre l'incendie et un autre organisme qui s'appelle le CEREMA sur la question de chute de blocs.
Christine Bedel, maire de Mostuéjoul. C'est notre assureur en fait qui nous a clairement dit qu'on n'était plus assuré sur les routes communales et qu'elles étaient dangereuses et qu'il fallait les fermer. Donc on a procédé à la fermeture, mais en même temps qu'on procédait à la fermeture, on a immédiatement monté tous les dossiers pour demander des financements pour pouvoir les réouvrir. Ça a été la priorité des priorités.
Le comité syndical, en tout cas les élus du parc, ont assez vite fait le choix d'assister la commune sur ce volet-là en commandant un diagnostic des travaux d'urgence post-incendie qui concernent à la fois la question des chutes de blocs sur les voiries communales mais aussi sur les sentiers de randonnée et les conditions dans lesquelles pouvaient intervenir des entreprises de travaux forestiers pour exploiter les bois brûlés, sachant qu'on est sur un site qui est pour partie un site classé, pour une autre partie un site inscrit et que toute la réglementation liée au code forestier sur les coupes reste d'actualité même si la forêt est incendiée.
On a été soutenus par toutes les institutions autour de nous. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de l'intensité qu'il y a eu juste après le feu. Il y a eu énormément de réunions avec beaucoup de personnes institutionnelles. On était peut-être 30 ou 40 à chaque fois pour gérer cet après-incendie.
Donc je suis Emmanuelle Gazelle, maire de Millau et présidente de la communauté de communes Millau-Grands Causses. La région a participé financièrement, la communauté de communes également, pour qu'on puisse à la fois monter un plan de prévention et puis aussi un plan de restructuration au plus vite de la biodiversité, également des sentiers de randonnée pour que le territoire, du point de vue touristique, ne soit pas sinistré. Sur la partie touristique, on a remis en état les sentiers dès les vacances d'avril 23. Et là, toutes les communes du territoire, du parc cette fois, ont été d'accord pour privilégier le territoire qui avait été victime de l'incendie et donc de mettre en attente un peu leur projet. Donc là aussi, on voit la solidarité du territoire quand même qui agit concrètement.
Même soutenue, la petite commune de Mostuéjoul ne peut pas prendre en charge elle-même certains dossiers, comme la coupe des bois morts sur les parcelles communales. Pourtant, il ne faut pas tarder à récolter ce qui peut l'être avant que le bois pourrisse. Les élus municipaux décident donc de confier ce travail à l'Office national des forêts.
Guillaume Bessignol, technicien forestier spécialisé des FCI actuellement, et au moment des incendies de 2022, technicien forestier territorial sur le secteur de Millau, Causse Noire et Causse de Sauveterre.
Quand un feu traverse un massif, ce qui va brûler, c'est les parties les plus fines, les parties les plus légères des arbres. Et donc on les valorise quasiment à la même valeur que des bois vivants. Sur l'ensemble des propriétés foncières de la commune, il y avait une zone, une grosse patate qui était quasiment contiguë. Donc il y a 806 hectares qui ont été proposés au régime forestier. Le premier enjeu, c'était la fréquentation et la circulation des personnes. Donc vous avez pour monter sur le Causse de Sauveterre, il y a deux routes, la route de Liocous et de Mossouijoul qui se réunissent. Et qui avaient, sur leur partie haute, subi l'incendie, avec des risques d'éboulement, des risques de chute d'arbres potentiels. Puis après, il y a tous les chemins et les pistes d'accès aux habitations qui sont sur le Causse.
Dans le même temps, les plus importants propriétaires forestiers du plateau, comme Muriel, se regroupent pour faire place nette et faire disparaître les tiges calcinées du paysage.
De voir ces arbres noirs, c'était horrible. Il fallait que ça aille vite, il fallait que ce soit nettoyé au plus vite pour moi. Non, deux jours après le feu, Sylvain Bois est venu me voir pour me prendre dans mon bois. Je lui ai demandé à monsieur Sylvain Bois si on pouvait faire une réunion à la maison avec tous les propriétaires du plateau et qu'on s'entende pour pas qu'il y ait 36 000 machines ici, que ce soit lui qui achète le bois à tout le monde. Ce qui a été fait, et tous les propriétaires, les 7 propriétaires, on a fait partir notre bois en commun. Et ils ont commencé dans l'hiver. Oui. Et ça a mis presque, on va dire, 10 mois avant que tout soit sorti.
Les petits propriétaires se retrouvent, eux, sans solution. La plupart n'ont pas l'habitude d'exploiter leur forêt, possédant quelques hectares dans les pentes. Même s'ils voudraient, eux aussi, tout couper pour ne plus avoir le rappel permanent de l'incendie, chez Chantal comme chez Ambroise, les arbres morts restent debout sur pied.
La propriété, nous avons 13 hectares et il y en a 11,5 qui ont brûlé. Personne n'a voulu couper nos arbres. Hein. C'est trop accidenté, c'était pas mécanisable. Et donc, malgré les promesses là, du CNPF, qui avait fait un cahier des charges en sorte qu'aucun propriétaire ne soit laissé sur le bas-côté, les terres de Bellevieille n'ont pas été coupées. Le travail de nettoyage du paysage, c'est moi qui dois le faire. Et c'est infini. Enfin, j'ai fait quelques secteurs, mais on ne peut pas en venir à bout.
Alors, moi, j'ai de la forêt, j'allais dire familiale. Et nous venions avec mon mari de racheter deux parcelles de terrain au mois de mai, donc juste avant l'incendie, des parcelles ayant appartenu à mes arrière-grands-parents. Sur ces deux parcelles, il y en a une aujourd'hui qui est brûlée. Puis dans l'idée de transmission, on a dit à nos petits-fils, vous vous rappellerez que vous l'avez vue nue, la terre. Nous avions même tout un endroit où on leur avait montré, il y avait plein de petits sapins. On leur avait dit, vous avez vu, on a une réserve de sapins de Noël. Et maintenant, on ne l'a plus. On a eu effectivement l'ONF qui nous a un petit peu expliqué ce qu'il conviendrait de faire, etc. Mais on nous a toujours parlé comme si on était des exploitants forestiers, alors que nous sommes juste des propriétaires de terrains qui n'en tireront aucun revenu.
Le problème, c'est qu'exploiter ces surfaces demanderait des coûts supérieurs à la valeur des bois récoltés, comme l'explique Guillaume Bessignol de l'ONF.
La valeur affective du secteur, on ne peut pas la mesurer, mais à la suite d'un incendie, valoriser les bois au mieux, c'est un des objectifs qu'on a mis en avant aussi, pour permettre à chaque propriétaire de pouvoir bénéficier d'un pécule financier face aux sinistres qu'ils ont pu subir. Les plus valables ont été valorisés en palettes, et une très grosse partie a été partie en bois de trituration ou en broyage pour faire du pelé. D'ici 1 à 3 ans, les arbres vont tomber, en fait. À petit. Donc à partir du moment où il y avait une pente trop importante, à partir du moment où il y avait des blocs rocheux en densité trop importante, l'intérêt n'était pas forcément là de venir exploiter, d'autant que les bois présents sur ces zones-là, soit ils étaient en densité très faible, soit à valeur commerciale très faible aussi.
Pendant que l'on évacue une partie des bois sur le plateau, Les habitants de la vallée, eux, s'inquiètent des autres conséquences, notamment en aval. Lily, documentariste habitant les bords du Tarn, est passionnée par le monde de l'eau. Elle s'inquiète de la masse des cendres descendues de la montagne vers une rivière qui prend alors des teintes noircies.
C'est un collègue pêcheur qui m'a expliqué qu'il y a des endroits où il y avait un mètre de cendres dans certains méandres du Tarn. En fait, on est fasciné et on est surtout pris par la problématique de l'incendie, mais on ne se rend pas compte des conséquences que ça a aussi sur le plan écologique. Éteindre un feu sur 1300 hectares, c'est pas éteindre un petit feu de forêt sur 500 mètres carrés, quoi. À un moment donné, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas d'informations sur toutes les conséquences de ces cendres qui ont rejoint la rivière? Surtout sur un cours d'eau qui est malmené depuis pas mal d'années et qui en plus est économiquement un élément clé du tourisme local.
Florian Ferjot, je suis chargé de mission milieu aquatique au syndicat Mix du bassin versant Tarn-Amont. Donc en fait, c'est des choses complètement nouvelles pour nous. On a des connaissances sur le transit solide des sédiments, des cailloux dans les cours d'eau. Et donc là, en fait, la demande était un peu particulière de la mairie de Mostuéjouls, à savoir quel est l'impact des cendres sur les milieux aquatiques. Alors du coup, nous, on a essayé de proposer avec nos moyens humains et techniques, on n'est pas des spécialistes, des scientifiques, donc plutôt du suivi visuel, du suivi des relevés un petit peu de l'évolution des hauteurs de sédiments dans le ravin, sachant que c'est un ruisseau déjà qui est déjà en stress l'été, il y a quand même peu d'eau, il y a peu de vie aquatique, que ce soit en invertébré ou en poisson. Arrivé dans le Tarn, en fait, on a observé des dépôts de cendres, donc là, on voyait le Tarn qui coulait tout noir de Mostuéjouls jusqu'à Millau. Et puis des dépôts de cendres, de sédiments un peu fins sur les zones de bordure, plutôt de plage, des zones plutôt lentes. Par contre, là où il y a le plus de vie, c'est dans les zones plutôt courantes, sous les cailloux. On n'a pas eu de colmatage, enfin en tout cas d'effet de colmatage par ces cendres. Et surtout, quand il y a eu les premières pluies, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que le ruisseau des Arzioles qui alimentait. Donc on s'est dit, finalement, il y a aussi du ruissellement plus en amont. Et là, pour le coup, on avait loupé cet endroit-là. On s'est focalisé sur le ruisseau des Arzioles parce que c'était les trois quarts de l'incendie. Mais finalement, les contributeurs ont été à plusieurs endroits pour alimenter le Tarn en cendres.
C'est une autre eau venue du ciel qui va finalement lessiver la rivière et la libérer de cette masse stagnante de cendres. Un épisode méditerranéen, comme on dit ici, fin 2023. Des pluies intenses qui font grossir en quelques heures les torrents dans les ravins. Mais voilà qui pose un nouveau problème, l'érosion du sol, comme en est témoin Romain, agent municipal.
C'était cet automne, ouais. Mais ça avait déjà commencé la première année, donc l'année du feu. Il y a eu un orage, on était en vigilance orange, je crois. On s'en doutait qu'il allait y avoir un épisode comme ça. Donc on te voit arriver le nuage de loin. Et on est arrivé pile poil au bon moment, quand l'eau arrivait au taquet. Et c'était un déluge.
Ah, ça craint quand même, hein.
Ça se calme, non ?
C'est calme, au contraire, non ? Attends.
Jade Bréchignac. Je suis chargée de mission inondation au syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont. Il y a une vidéo qui a été prise par les services de la commune de Mostuéjouls sur l'épisode de pluie du 23 octobre 2023. Là, le gros problème qu'il y a eu à Mostuéjouls, enfin du feu, c'est qu'il n'y a plus rien qui retient le sol. S'il y a une grosse pluie comme ça, donc déjà des intensités de plus de 100 mm par heure, c'est considérable. Mais si ça arrive sur un sol qui est structuré, qui se tient, a priori, ça ne pose pas trop de dégâts. Là, le problème, c'est que vu que la forêt a brûlé, il n'y avait plus rien qui retenait le sol. Et qu'en plus, on est très vite sur la roche-mère. Et donc là, le peu de sol qui restait a été emporté par la pluie.
Pour exemple, du coup, on avait positionné ce qu'on appelle des chaînes d'érosion. Donc on les a installées dans le sédiment. Donc sous la terre, donc de la surface de la terre jusqu'au fond du lit du ravin. Et l'épisode du 23 octobre, nos chaînes faisaient 60 cm de haut, enfin étaient enterrées de 60 cm, plus 20 cm de sédiments qui s'étaient déposés. On a perdu les chaînes lors de cet épisode. À peu près un mètre de matériaux qu'on transitait dans le ravin. Donc pour le coup, les cendres, qui sont des éléments très fins, elles sont parties, ont été lessivées.
Il y a un problème de sécurité humaine parce que la route est menacée et érodée et risque d'être emportée. Et donc si quelqu'un se retrouve sur cette route à un moment où il y a par malchance un nouvel épisode pluvieux, en gros, mauvais endroit, mauvais moment, mais cette personne peut se retrouver aussi emportée dans sa voiture. Donc nous, là, ce qu'on essaye de faire dans un premier temps, c'est d'accompagner la commune sur cette gestion du risque. En partant du principe que quelqu'un qui est averti ne se mettra pas en danger, ou beaucoup moins, il y a des panneaux qui ont été installés au début et à la fin de la route qui indiquent « attention, route inondable en cas de forte pluie ».
Dans ce qui paraît une spirale de difficultés successives, les élus de la commune découvrent alors que le torrent a non seulement endommagé la route, mais aussi traversé en contrebas une ancienne décharge municipale. Nouveaux dégâts et un nouveau problème, comme l'explique Christian, élu chargé des questions d'environnement.
En gros, on va dire une cinquantaine d'années d'amoncellement de déchets de toutes sortes, quoi. Malheureusement, elle est située à un endroit dans un virage et donc à l'intersection de ravines. Quand il pleut beaucoup maintenant, c'est un véritable torrent qui déferle et du coup qui passe en plein milieu de la décharge. Et là, du coup, il y a eu une journée d'opération de nettoyage des berges comme il y en a depuis 20 ans, je crois, ou 25 ans. Et on a passé, on était une vingtaine, à essayer de nettoyer ce ruisseau des Arzioles. Et donc, quand on est arrivé en haut du ruisseau, on est tombé devant un amoncellement de voitures, de batteries, de machines à laver, etc. Donc, ils sont en train d'être arrachés de cette décharge. Et donc, c'est un problème important, oui. Puisque la commune ne pourra pas, enfin, tout seul ne peut pas résoudre le problème, c'est impossible.
Tout cela dure depuis 2 ans déjà. Le temps nécessaire pour que la commune commence à sortir la tête des flammes, des cendres et des conséquences multiples de l'incendie. Pris par les problèmes les uns après les autres, les acteurs du territoire ont bien fait du mieux qu'ils pouvaient, mais un peu trop de leur côté selon certains habitants, qui ne se sont pas sentis assez considérés pendant comme après l'incendie. Comme les ravins, une distance s'est creusée avec une partie d'entre eux, comme Jean-Jacques, Fanette ou Gilles.
Mais donner un coup de main sur l'avenir, ça me paraît relativement difficile actuellement, parce que quand nous-mêmes ici, qui sommes d'ici, on veut donner un avis, et cet avis il ne compte pour rien, c'est assez compliqué quand même. Ouais. On a l'impression que, si vous voulez, c'est un avis qui est dans le vide. On n'est pas pris en considération alors que nous sommes des gens d'ici quand même. Vous voyez, ça c'est un peu embêtant. Ouais. Ouais. On n'a pas été pris en compte du tout. Voilà. Il y a des gens qui viennent là, qui ne sont pas d'ici, avec qui on est très amis, et il n'y a aucun souci. Ça, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fin de compte, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir prendre les avis des gens qui connaissent bien la région, c'est tout. Et surtout le tourisme. Alors là, si vous parlez du tourisme, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Moi, je travaille dans le tourisme depuis plus de 20 ans, donc je veux dire...
On a pris tous, à un moment donné, l'initiative de se mettre à contribution, de mettre notre pierre à l'édifice. Mais peut-être qu'on aurait pu le faire de façon plus judicieuse, en tout cas de façon plus coordonnée. Ça, c'est mon point de vue de secouriste, d'ancienne secouriste en tout cas. Ce qui ressort, moi, de chacune de mes conversations avec les habitants du coin, c'est « mais nous, on sait que... » Pas moi, parce que moi, je ne suis pas du cru. Mais les gens du cru nous disaient tous « mais nous, on sait que là, si le feu prend là, c'est dangereux. Est-ce que les pompiers le savent ?» Et moi, je les écoutais parler, ces gens, et je me disais « eux, c'est la force vive du territoire. » Parce qu'ils ont des terres, parce qu'ils chassent, parce qu'ils randonnent, mais eux, ils connaissent le territoire comme leur poche. Et cette force-là, elle est laissée en plan. Psychologiquement, c'est hyper dur pour ces gens-là. Mais c'est préjudiciable aussi, peut-être, pour les opérations, en fait.
Je ne veux pas faire le vieux con. Mais il y a quelques années, quand il y avait quelque chose de grave dans une commune, tout le monde prenait une pelle, une pioche, ou ce qu'il avait sous la main, ou un seau d'eau, et il y allait. Aujourd'hui, on laisse faire les pompiers, mais les pompiers, ouais, les volontaires, c'est quand même des gens qui risquent leur vie pour les citoyens. Mais il y a tellement de choses qui me semblent logiques et qui peuvent être mises en place qu'à un moment donné, c'est dommage que ce ne soit pas fait. Je pense qu'il serait intéressant que les gens soient formés au feu, quoi. Alors, on leur demandera pas d'être pompier, mais que le gars, il sache dérouler une manche d'incendie, qu'il sache ce que c'est qu'un poteau ou une borne d'incendie, qui sachent comment on la raccorde. Alors sans se prendre le chou, quoi, qu'il y ait des unités de sécurité feu, ou en tout cas qu'ils soient formés comme tels, ça peut être intéressant, ça peut être une partie à résoudre.
Du côté des responsables, à la mairie, à la communauté de communes ou au parc, on voudrait que soit d'abord soulignée l'immensité du travail abattu, même si celui-ci a pu paraître invisible, et on a du mal à comprendre toutes les critiques.
Ce que je peux dire, c'est que pendant ces 2 ans, on s'est attaché, moi en tant que maire et soutenue par l'équipe municipale, on s'est attaché à réparer les dégâts, on n'a pas fini. Sans oublier tous les travaux que l'on avait en cours avant l'incendie et qu'on a continué à mener, malgré la surcharge de travail liée aux dégâts post-incendie. Alors chacun a fait son petit chemin dans son coin, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du travail qui a été fait. Vous parliez d'une réunion publique. La seule grosse réunion qui a été faite immédiatement après, c'était une réunion en direction des propriétaires, en fait.
L'urgence que nécessitait un certain nombre de décisions,
Jérôme Bussière,
a fait qu'on n'a pas forcément, effectivement, tout de suite associé les habitants. Il s'agissait principalement de respect de la réglementation, d'organiser des coupes et d'organiser aussi la mise en sécurité des voiries. Donc, il demandait une certaine expertise.
Vous savez, les élus, ils sont rarement coupés de la population parce que
Emmanuel Gazel.
On est avec la population en permanence. Déjà, on représente la population. Il ne faut pas oublier notre mandat. Notre mandat, c'est celui-là. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment d'être coupé, non. Et puis, au contraire, j'ai le sentiment que... à la fois dans la gestion de crise et ensuite dans la reconstruction, on a travaillé en lien avec beaucoup, beaucoup d'acteurs et de partenaires, alors qui sont des partenaires institutionnels, c'est vrai, mais chacun est à sa place aussi. Hein, quand on travaille avec la sécurité civile, ce sont des citoyens qui sont bénévoles. Les pompiers, il y a beaucoup de pompiers volontaires. Donc, au contraire, moi, j'ai vraiment le sentiment inverse, c'est que même dans la gestion de l'incendie, ce qui n'était pas facile, c'était d'encadrer les bonnes volontés. Même si ça part vraiment d'un bon sentiment et de la volonté de bien faire, eh ben, ça amène plus de travail aux forces de gendarmerie, de police.
On a mis en place un comité de gestion post-incendie qui s'est élargi au fil du temps. On va parler, par exemple, de la défense des forêts contre l'incendie, des équipements qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise. Pour ces thématiques-là, on va regrouper un certain nombre d'experts, d'élus, plus à même d'évaluer si c'est faisable, pas faisable, sachant qu'effectivement, derrière, ça a un coût. Il y a d'autres enjeux, par exemple sur la fréquentation ou sur la renaturation du site, où les choses demandent à être un peu plus concertées. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y aura sans doute besoin d'associer un peu plus des habitants ou des représentants des habitants qui ont aussi le souhait de préserver le site et de pouvoir continuer à le fréquenter.
Il serait faux et injuste de dire qu'il n'y a eu aucune place pour la population durant cette période. Simplement, c'est elle-même qui a dû se la créer, notamment au travers d'un événement 2 mois après l'incendie. Les habitants ont eu l'idée d'une journée baptisée Solifeu en octobre 2022 pour remercier notamment les pompiers. L'un des rares temps qui a permis de partager un moment solidaire entre les personnes qui avaient vécu ce drame, comme le raconte Fanette, l'une des initiatrices avec Gilles.
Moi, j'ai essayé de faire le lien entre les différentes associations, certaines que je ne connaissais pas. C'était l'occasion aussi de faire la connaissance de ces assos qui œuvrent sur le terrain toute l'année. Eh bien, c'était sur une journée complète. Il y a eu des concours de dessin pour les enfants, il y a eu des interventions, les pompiers sont venus, on a pu parler avec les gens, la population, les gendarmes aussi sont venus. Il y a eu une grande tombola, il y a eu un micro ouvert. C'était bien, je pense à Doudou de Bellevieille qui m'a dit quelques mots et c'était très intéressant, beaucoup ont apprécié, qui partage son ressenti. Beaucoup d'interventions musicales aussi, des artistes du secteur qui ont eu envie de participer à ce moment et ça a remis des couleurs en fait. ça a remis du lien entre les gens et ça a redonné une autre dimension à cet événement.
On n'est pas élu pour diriger les citoyens, on est élu pour écouter les citoyens. En tout cas, les administrés ont leur mot à dire. Chacun a fait, tout le monde a fait avec son cœur, tout le monde a fait avec sa volonté. Il faut saluer ça de la part de tout le monde. Il y a eu des erreurs de commises. Eh ben, les erreurs, c'est ce qui fait avancer. Je suis désolé, c'est pas ce qui fait qu'on va taper sur les gens. Si on la laisse en tant qu'erreur, ça sert à rien. Par contre, si on dit, ouais, il y a eu une erreur, soyons constructifs et valorisons cette erreur. Et ça, c'est utile.
Faire ensemble reste aujourd'hui un grand défi à Mostuijoule. C'est une chose d'avoir répondu aux problèmes immédiats, post-crise, c'en est une autre d'intégrer plus largement la population aux réflexions actuelles sur l'avenir du territoire. Pour reconstruire durablement, là où il y avait hier une forêt, il va falloir faire avec tout le monde et cet attachement profond et viscéral de la population à ce coin de montagne.
C'était Résonance du Feu, épisode 4, Post-incendie. Une série documentaire écrite et réalisée par Elsa Souchet et produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste sur la commune de Mostuijoule en Aveyron. À suivre sur radiolarzac.org.